Chapitre 9. Richard revint vers le groupe d'ambassadeurs, de représentants et de régents, dans le lot il reconnut même une poignée de rois et de reines, qui constituaient l'élite des contrées du milieu avant que celles-ci s'unissent à l'empire d'Aran. Voyant que Zed et Callan suivaient le sourcier, Nathan glissa le livre sous son bras, afficha son plus beau sourire et leur emboîta le pas. Étant le seul prophète vivant et un membre de la lignée râle, Nathan était universellement connu au palais. D'une nature flamboyante, il adorait son statut de célébrité. La chemise à jabot et la cape étaient une manière de faire honneur à son rôle, tout comme l'épée et le fourreau richement ornementés qui battaient sur sa hanche. Aux yeux de Richard, un sorcier de cette envergure armé d'une épée avait l'air aussi fin qu'un hérisson qui se serait muni d'un cure-dent pour se défendre. Mais le vieux prophète trouvait qu'avoir une lame en jetait. Il adorait attirer les regards, y répondant par un sourire quand il s'agissait de ceux d'un homme et par une révérence lorsqu'il avait affaire à une femme. Plus ses admiratrices étaient jolies et plus le vieux chenapan s'inclinait bas. Ces dames rougissaient, mais elles restaient rarement insensibles au charme du prophète. Bien qu'il fût âgé de près de 1000 ans, Nathan regardait la vie avec l'émerveillement et l'enthousiasme d'un enfant. Cette touchante naïveté lui valait la sympathie de bien des gens. Mais beaucoup d'autres, en revanche, estimaient qu'il était l'homme le plus dangereux du monde. Un prophète avait accès au futur, bien trop souvent le royaume de la douleur, du chagrin et de la mort. Pour certains esprits simples, Nathan avait sa part de responsabilité dans l'avenir qui les attendait. En réalité, le vieil homme avait un don pour les prophéties et rien de plus. Il ne les inventait pas et pouvait encore moins influer sur leur accomplissement. Faute de comprendre comment fonctionnent les choses, une partie de ses détracteurs se méfiait de lui, parce qu'il le tenait pour le maître des prédictions qu'il se contentait pourtant de déchiffrer. D'autres le redoutaient pour une raison bien différente. Par le passé, certaines prophéties dont il s'était fait le messager avaient déclenché des guerres. Parmi les admiratrices du prophète, bon nombre étaient fascinées par son côté sombre, comme elles disaient. Lorsque Richard avait demandé à son ancêtre pourquoi il portait une épée, la réponse ne s'était pas fait attendre. « Tu en portes une aussi et tu es un sorcier. » Certes, mais Richard était aussi le sourcier de vérité, et il y avait entre son arme et lui un lien magique. Elle faisait partie de lui, concourant à son identité. Nathan arborait une lame dont il n'avait pas besoin car il pouvait carboniser un adversaire d'un simple sort. Sans doute, avait riposté le prophète, mais Richard, sourcier ou non, était bien plus redoutable que l'arme qu'il portait, exactement comme lui.
« Seigneur Râle, »
demanda un homme en tunique rouge lorsque le cercle de notables se fut refermé sur Richard et ses compagnons.
« Pouvons-nous savoir si des événements prophétiques nous attendent ?»
Beaucoup de gens hochèrent la tête, soulagés que la question soit enfin posée. Allez voir tendre l'oreille, le sourcier soupçonna que c'était en réalité le seul sujet qui les intéressait vraiment.
« Des événements prophétiques ?»
répéta Richard, jouant avec les nerfs de son auditeur.
« Eh bien, avec tant de détenteurs du don réunis, le premier sorcier Zorander, Nathan Râle et vous-même, seigneur, car en magie de magie, vos actes le prouvent, vous êtes au moins leur égal, les secrets les plus complexes des prophéties n'en sont certainement plus. Des secrets, je veux dire. Très humblement, nous espérons que vous nous révéliez ce que les antiques recueils vous ont appris sur notre avenir. »
Dans le cercle de dirigeants, tout le monde murmura son assentiment ou hocha au minimum la tête.
« Vous voulez entendre des prophéties ?»
résuma Richard. Le cercle se resserra un peu plus.
« Alors ouvrez en grand vos oreilles. »
Richard désigna la lumière grisâtre qui sourdait des hautes fenêtres. Tous les notables tournèrent brièvement la tête, puis rivèrent de nouveau le regard sur le seigneur Râle dont ils ne voulaient pas rater le moindre mot.
« Il va y avoir un orage printanier, comme nous n'en avons plus vu depuis des années. Certains d'entre vous qui aimeraient rentrer chez eux devraient partir sur le champ s'ils ne veulent pas être coincés au palais pendant plusieurs jours. »
Quelques personnes murmurèrent entre elles comme si le seigneur Râle venait de leur révéler le secret de la création et de la mort. Les autres, moins bon public, semblèrent se demander si c'était du lard ou du cochon. Le type, plutôt corpulent, en tunique rouge, leva dignement une main.
« Seigneur Râle, vos propos sont fascinants et hautement prophétiques, je n'en doute pas. Mais malgré leur incontestable utilité, nous nous attendions à des révélations plus spectaculaires. Lesquelles, par exemple ?»
demanda Nathan d'une voix puissante qui fit sursauter plusieurs nobles auditeurs. Au premier rang, une femme vêtue d'une robe plissée jaune et vert prit la parole avec un sourire forcé.
« Seigneur, nous espérions entendre de véritables prophéties, en savoir plus long sur les noirs secrets du destin, en d'autres termes. »«
Pourquoi cet intérêt soudain pour les prophéties ?» demanda Richard de plus en plus mal à l'aise. Impressionnée par le ton du seigneur Hall, la femme parut tout d'un coup plus petite, comme si elle tentait de s'enfoncer dans le sol. Alors qu'elle cherchait ses mots, un homme de haute taille fendit la foule pour venir se poster au premier rang. Vêtu d'une stricte redingote noire, et il portait autour du cou une sorte de col rond à mi-donné, très serré, et un étrange chapeau noir carré et sans bord reposait sur sa tête.
« Seigneur Hall, » dit-il en s'inclinant respectueusement, « je suis l'abbé Ludwig Dreyer, représentant de la province de Fajin. Dans nos pays d'origine, nous avons tous entendu des avertissements lancés par des gens qui, à un titre ou un autre, ont l'aptitude de sonder les flots du temps. Leurs sinistres présages nous ont grandement troublés. »
Richard croisa les bras, l'air peu commode.
« De quoi parlez-vous? Qui ose prononcer des avertissements ?»
L'abbé regarda les autres invités.
« Toutes sortes de gens, seigneur. Depuis que nous nous sommes réunis au palais, nous avons découvert que des diseurs de bonne aventure clament partout dans l'Empire des prédictions qui... »«
Des diseurs de bonne aventure ?»«
Des devins, seigneur Hall. Bien qu'ils vivent dans des pays différents et ne se connaissent pas, tous délivrent sur l'avenir des prédictions sinistres. »
Richard plissa le front.
« Que signifie cette histoire de devins ? Ce ne sont pas de vrais prophètes. »
Il désigna son ancêtre.
« Nathan est le seul prophète vivant. Qui sont les imposteurs dont vous écoutez les mensonges ?»
L'abbé haussa les épaules.
« Ce ne sont peut-être pas des prophètes, mais pourquoi les accuser d'imposture ? Quand ils sondent les fumées sacrées, les capnomans anciens ne voient-ils jamais rien qui soit digne d'attention ? Et les aruspices ne distinguent-ils pas des présages dans les entrailles d'animaux ?»
L'homme écarta les bras en signe de bonne foi.
« Voilà les gens dont je parle, seigneur. Des devins, en somme. »
Richard ne se laissa pas démonter.
« Si vos capnomanciens et vos aruspices sont si doués, pourquoi me demandez-vous des oracles ?»
L'homme eut un étrange sourire.
« Ils sont doués, certes, mais comparés à vous ou à vos compagnons, ils deviennent insignifiants. « Si vous consentez à nous éclairer de votre omnisciente sagesse, nous pourrons rapporter vos paroles à nos peuples. Les prédictions que j'ai mentionnées les ont troublées, et ils espèrent que vos paroles les rassureront, Seigneur. Un orage printanier, même si l'information est utile, ne saurait satisfaire des esprits assoiffés de vérité. Et pour être franc, le climat ne nous intéresse pas. Ce qui nous inquiète, ce sont les sinistres augures qu'on entend un peu partout. »
Malgré ses efforts, Richard ne put s'empêcher de foudroyer du regard ses interlocuteurs.
« Vos peuples veulent savoir ce que le seigneur Hall pense de ce sujet ?»
Des gens hochèrent la tête et certains osèrent avancer encore un peu vers le maître de Dara. Richard décroisa les bras et se redressa de toute sa hauteur.
« Eh bien, je dis que l'avenir est ce que nous en faisons et qu'importent les augures. Votre vie, mes amis, n'est pas déterminée par le destin, ni prédite dans des grimoires, ni révélée par des fumées sacrées. Et le futur ne se cache pas dans des tripes de cochon. De retour chez vous, dites aux gens d'oublier les prophéties et de construire eux-mêmes leur avenir. »
Nathan fit un pas en avant et s'éclaircit la voix.
« Le seigneur Hall veut dire que les prophéties sont réservées aux prophètes et aux autres détenteurs du don. Eux seuls peuvent les comprendre et les interpréter. Partez en paix, mes amis, car nous nous chargerons des prédictions à votre place. »
Dans le cercle de dirigeants, certains à contre-cœur semblèrent trouver que c'était bien vu. D'autres parurent beaucoup plus sceptiques. Une mince jeune femme, reine d'un des pays des contrées, prit la parole.
« Seigneur Ral, je suis la reine Ornetta. Permettez-moi de rappeler que les prophéties sont conçues pour aider les gens. Les mots écrits par d'antiques prophètes viennent de la nuit des temps pour nous avertir des malheurs qui nous guettent. À quoi serviraient les recueils si les peuples n'étaient jamais informés de ce que leur réserve l'avenir? Et si ce n'est pas pour venir à notre secours, pourquoi les prophètes existeraient-ils? En d'autres termes, que vaut une prédiction qui reste secrète ?»
Nathan sourit.
« Votre Majesté, n'étant pas une prophétesse, comment sauriez-vous distinguer les prédictions utiles de celles qui ne servent pour le moment à rien ?»
La reine joua nerveusement avec son long collier dont l'extrémité disparaissait dans son décolleté.
« Eh bien, je suppose que... »
Richard posa sa main gauche sur le pommeau de son épée.
« Les prophéties sont plus nuisibles qu'utiles, voilà ce que je pense. »
Callan vint se camper près de son mari, attirant aussitôt l'attention générale.
« Richard et moi, nous avons eu connaissance de prophéties terrifiantes qui nous concernaient. Si nous les avions écoutées, agissant comme elles semblaient nous y inciter, cela aurait entraîné notre destruction, et au bout du compte, celle du monde des vivants. Oui, si nous avions agi comme vous vous comportez aujourd'hui, abdiquant notre libre arbitre en faveur des prédictions, vous seriez tous morts, mes amis. » Ou réduit en esclavage par des maîtres d'une inimaginable cruauté. Au bout du compte, il s'avéra que les prophéties en question ne mentaient pas, mais qu'il ne fallait surtout pas s'en tenir au pied de la lettre. Entre des mains profanes, les prédictions sont des armes mortelles, et il ne faut jamais les prendre au premier degré.
« Donc, vous prétendez qu'il est impossible de connaître notre avenir ?»
demanda Ornetta, soudain agressive. Voyant de la colère dans les yeux verts de sa femme, Richard jugea plus prudent de répondre à sa place.
« Nous affirmons que l'avenir n'est pas prédéterminé. Chacun fabrique son futur, et c'est très bien comme ça. Quelqu'un qui croit au destin ne se comporte pas naturellement. Et quand une personne prend des décisions parce qu'elle se réfère à des présages, ses choix peuvent se révéler désastreux parce qu'ils ne sont pas le fruit d'une saine et logique réflexion. » Un être humain doit agir en fonction de ce qu'il tient pour son intérêt. Les prophéties ne peuvent que l'induire en erreur. L'avenir n'est pas contenu dans les prédictions. Celles-ci peuvent être utiles, c'est vrai. Mais pour cela, il faut qu'elles restent entre les mains des prophètes et des détenteurs du don.
Même s'ils n'étaient pas entièrement convaincus, les dirigeants semblèrent soudain moins avides d'entendre de spectaculaires présages.
« Les prophéties ont un sens, » intervint Nathan. Et certaines personnes sont capables de les déchiffrer. Mais pas dans des boyaux de cochon, je peux vous l'assurer. »
Voyant que les invités hésitaient encore, Cara vint se camper à la gauche de Richard.
Les Darans disent que le Seigneur Hal est la magie qui combat la magie, alors qu'ils sont eux-mêmes l'acier qui affronte l'acier. Richard Hal a prouvé sa valeur. Alors, laissez-lui donc la magie.
Venant d'une mort de Sith, ces propos avaient un poids tout particulier. Les invités semblèrent comprendre qu'ils s'étaient aventurés sur un terrain glissant et qu'ils avaient franchement dépassé les bornes. Quelque peu honteux, ils parlèrent entre eux à voix basse et finirent par conclure qu'il valait mieux, effectivement, laisser la magie à ceux qui savaient la contrôler. La tension diminua, comme si une catastrophe venait d'être évitée de justesse. Du coin de l'œil sur sa droite, Richard vit qu'une des servantes en tunique bleue approchait de Callan d'un pas décidé. La femme posa la main sur l'avant-bras de la mère inquisitrice, comme si elle voulait lui parler sans que personne n'entende. Ce détail alerta Richard. Les gens ne touchaient jamais ainsi la mère inquisitrice. Soudain, le sourcier vit le regard hanté de la servante. Puis, quand elle se tourna un peu, il découvrit le sang qui maculait le devant de sa robe. Il bondit au moment où l'inconnu levait le couteau qu'elle serrait dans sa main libre.